Nous terminons justement face au monde, parce que nous avons vu la condition juive face aux défis que représente la nouvelle condition israélienne, ensuite face au pouvoir et la souveraineté, tous les problèmes que cela suscite, et maintenant face au monde, dans la mesure où, comme beaucoup l'ont évoqué, c'est en fonction de la finalité également de l'existence du peuple d'Israël. Et j'ai demandé au rabbin Ori Cherki, rabbin de Kiryat Moshe, n'est-ce pas, d'une communauté,
la communauté Beth Yehuda.
Communauté Beth Yehuda, la maison de Juda, au nom de Manitou, ça je ne savais pas. C'était Kiryat Moshe à Jérusalem, c'est ça, qui est aussi responsable dans le Machon Meir, et qui a surtout fondé quelque chose qu'on ne trouve pas ailleurs, qui est un centre pour les fils de Noé, les Noachides. Vous avez sans doute entendu parler de cette notion à propos de Eli Ben Amozek, ceux qui ont suivi les toutes sortes de colloques qu'on a organisés. Nous avons aussi organisé un colloque sur les Bnei Noach. Et nous avons ici le professeur Novak, qui a écrit un livre magistral sur la notion de fils de Noé dans la tradition juive, qui a été réédité récemment en Angleterre, mais qui a été édité il y a vraiment des dizaines d'années aux États-Unis dans une édition universitaire. Et là, il est réédité et c'est une véritable somme de travaux. Le rabbin Cherki a fondé donc ce centre qui s'intitule Brit Olam, qui a justement l'ambition de renouveler une sorte de message de l'Israël étatique, du nouvel Israël à destination de l'univers, à destination de l'humanité, et qui développe aussi toutes sortes d'outils dont il va nous expliquer la teneur, un droit spécifique justement au fils de Noé, un statut particulier. Et particulier. Alors nous allons l'entendre et ensuite nous allons débattre de ce qu'il va nous dire.
Bonjour tout le monde. Bonjour à tout le monde et merci de votre patience. Je vais essayer de tenir ma promesse. J'ai promis au professeur Trigano de ne pas dépasser les 40 minutes. Mais je tiens également à faire une autre promesse que j'espère tenir, c'est de ne pas parler moins de 39 minutes. Je dois dès le départ m'excuser auprès de quelques-uns de nos amis noachides qui sont ici présents, parce qu'ils vont entendre des choses qu'ils connaissent déjà. Mais ça nous fait toujours plaisir de nous rencontrer. Bon, de quoi s'agit-il ? Tout d'abord, je voudrais commencer par une critique du judaïsme, celle du philosophe Henri Bergson, d'origine juive, mais qui a affirmé que le christianisme était supérieur au judaïsme. Pour une raison très simple, c'est que, selon ses dires, le judaïsme parle d'un Dieu qui ne se préoccupe que de son peuple, tandis que le christianisme dépasse de loin tout ça et s'occupe de l'ensemble de l'humanité. Bon, cette critique est bien connue, elle n'est pas nouvelle en fait, elle n'a pas commencé avec Bergson. On pourrait dire même qu'elle est le fondement même du christianisme lui-même. Bien qu'on peut se poser des questions à propos de l'universalité du christianisme, puisque en dehors de l'Église, pas de salut. Mais en tout cas, pour toute personne qui connaît un peu le judaïsme, même très superficiellement, la critique de Bergson a l'air d'être une absurdité absolument énorme. Vous n'avez qu'à lire le livre de Yonah, que l'on lit à chaque Kippour, que tout juif le lit à chaque Kippour, et on voit un prophète délégué pour faire la teshuva sur des iniquités à une nation étrangère, la ville de Ninive. Il est question dès le départ dans la Torah, dans le livre de Bereshit, on ne parle pas d'Israël, on parle d'abord de l'humanité. Et on pourrait même presque dire que l'idée même d'élection, non pas presque dire, on peut le dire, l'idée même d'élection d'une nation suppose l'universel. Parce que si vous parlez d'un peuple élu, ça veut dire qu'il y a un arrière-plan. L'arrière-plan, c'est l'humanité. Et donc, si on parle d'élection, c'est comme on dit dans la prière, « Bahar banu mikol ha'amim », il nous a élus d'entre toutes les nations, ça veut dire que nous avons un rôle par rapport à toutes les nations. Ça, c'est au niveau du message biblique. Dans la Mishnah nous dit, au nom de Rabbi Akiva, « Chaviv Adam Shinivra Betzelem Elohim ». L'homme est cher parce qu'il a été créé à l'image de Dieu. Et après, on continue en disant « Israël est cher car il a reçu la Torah » et tant d'autres choses. C'est-à-dire que si on parle tout d'abord de l'homme qui est créé à l'image de Dieu, donc ça veut donc dire qu'il y a tout d'abord un universel qui est le préalable à l'élection d'Israël. Et donc, a priori, la critique bergsonienne a l'air totalement ridicule. Elle ne convient pas, disons, à l'envergure d'un tel philosophe qui a tant de mérite. Mais en fait, on peut comprendre le judaïsme de fait qu'a connu Henri Bergson était un judaïsme replié sur lui-même. Pendant le temps du Moyen-Âge, le judaïsme vivait pour sa survie immédiate. Alors vous savez, quand on vit pour sa survie immédiate, pas pour ce qui va se passer demain, mais ce qui va se passer aujourd'hui, alors on n'a pas le temps de s'occuper des autres. Et puis après, au temps de l'émancipation, depuis l'intervention extérieure de Napoléon, tellement cher à notre ami, Shmuel Trigano, depuis ce moment-là, les Juifs luttaient pour autre chose, pour s'insérer dans la société, pour être vraiment bien assimilés par la civilisation européenne de l'époque. Et donc les Juifs n'avaient pas le temps de s'occuper des autres. Et donc ce que rencontrait Bergson, il rencontrait un peuple qui ne s'occupe que de lui-même. Avec des circonstances atténuantes, sans aucun doute, mais c'était le fait existentiel. Mais toujours a été véhiculé à travers la littérature rabbinique, entre autres, et également celle du Zohar, a été véhiculée une mission universelle extrêmement claire, une doctrine au niveau de la halakha, au niveau de la pensée, au niveau de la mystique, qui se préoccupait de l'humanité tout entière. On peut dire que c'est une évidence. Si le premier de nos patriarches est Abraham et que la Torah nous dit de lui qu'il sera une bénédiction pour toutes les nations de la terre, ben il va de soi, donc il y a une mission universelle. Et cette bénédiction est très importante. Parce que elle n'est pas formulée de manière purement humaniste. Tous les hommes sont frères. C'est quelque chose de beaucoup plus fort. C'est d'être une bénédiction pour toutes les familles de la terre. Déjà, on parle de l'humanité organisée en tant que groupement humain, des sociétés humaines, des familles de la terre, des nations. Et c'est par rapport à cet état de fait de la division de l'humanité en nations qu'Israël a un message. Par contre, toutes les religions dites cosmopolites parlent justement de l'ensemble des individus de la Terre en essayant de faire le saut, de faire l'économie du politique. C'est comme si le politique, le collectif, posait un problème pour les hommes de bonne volonté, les spirituels du monde, et on dit la politique, il vaut mieux pas trop s'en occuper. Tandis que le projet d'Israël est un projet politique et universelle. C'est-à-dire, quand Dieu dit à Abraham, quitte la maison de ton père pour aller dans la terre que je t'indiquerai et je ferai de toi une grande nation, une nation sur un sol, c'est un État. C'est-à-dire, en fait, ce qu'on peut dire, c'est que quand Dieu s'est révélé à Abraham, Abraham avait déjà derrière lui une longue histoire religieuse. Il convertissait les gens. À quoi est-ce qu'il les convertissait ? Au monothéisme. Et puis un beau jour, Dieu lui dit, tu sais, maintenant tu vas abandonner tout ça, tu vas passer au politique. On va dire que l'histoire d'Israël commence par l'abandon du religieux pour entrer dans le politique. Ce qui est évidemment un scandale pour la conscience occidentale héritière du christianisme, qui considère que le politique a quelque chose de polluant. C'est quelque chose d'impur. Donc il ne faut pas trop en parler. Et d'ailleurs, le fondateur du christianisme, on lui attribue la phrase « Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu ». Mais ça peut être interprété de différentes manières. Mais en tout cas, ce que nous savons, c'est que quand Jésus est allé voir les rabbins, il leur a dit, au Sanhédrin de l'époque, il leur a dit « Vous attendez que le fils de David vienne pour vous libérer de la domination des Romains. Mais moi, je suis venu sauver les âmes. » Les rabbins lui ont dit « Ah, c'est intéressant ce que vous dites, mais c'est en dehors du coup, vous n'êtes pas dans le judaïsme. » Et c'est comme ça que s'est faite la scission. C'est-à-dire, il y a un projet concernant la société politique, et c'est ce modèle que nous essayons d'exporter aux nations. Venivrechu becha kol mishpachot adama, par toi seront bénies toutes les familles de la terre. Les familles, c'est-à-dire les nations organisées, bien qu'il faudrait s'attarder peut-être sur la différence entre goyim et mishpachot, ce que nous ne ferons pas. Et en tout cas, on peut dire que ça fait toujours partie donc de l'espérance d'Israël. Il y a même une proclamation de foi que font les juifs tous les jours, une proclamation qui est le contraire du monothéisme. Je vais vous dire d'abord la phrase en hébreu, c'est Shema Israël Hashem Elohim Hashem Echad, que on traduit en français, en bon français, ça veut dire la chose suivante. Écoute Israël, l'Éternel est notre Dieu. Et qu'est-ce que dit Rashi ? Notre, alors c'est souvent incroyable, le verset qui parle de monothéisme, qui proclame l'unité de Dieu, Rashi explique, l'Éternel est notre Dieu et pas celui des nations. C'est énorme. Et Rashi rajoute, Hachem Echad, mais un jour, il sera le Dieu de tout le monde. C'est-à-dire que cette proclamation de foi est une proclamation terre à terre qui connaît la réalité. Le seul peuple à reconnaître l'existence de ce Dieu unique au moment où Moshe prononce cette phrase, c'est Israël. Et cette phrase est porteuse d'une dynamique historique. C'est-à-dire le juif qui dit Shema Israël tous les jours a cette espérance universelle. Hachem Echad. Et Rashi cite pour illustrer le mot Echad un verset de Tsefania, Sophonie, comme on dit, chapitre 3, verset 9, qui dit Ki az efoch el amim safa berura, car viendra un temps où je bouleverserai chez les nations en un langage clair, likro kulam bechem Hashem ou leurvdo shechem Echad, afin que tous invoquent le nom de Dieu et le servent d'un même effort. Donc, il y a cette espérance qui est portée et qui a été concrétisée plusieurs fois dans l'histoire. Par exemple, quand la Torah nous parle de ce qu'il faut faire en entrant en Eretz Israël, à part le fait donc de massacrer, n'en parlons pas, enfin en tout cas de faire la conquête du pays de Canaan, après avoir proposé d'ailleurs la paix, c'est la halakha, elle nous dit qu'il faut ramasser 12 grandes pierres, les enduire de chaux et écrire la Torah dessus. Et la Torah dit qu'il faut l'écrire Ba'er et Tev, de manière très claire. Interprétation des Chachamim, de la tradition rabbinique, ça veut dire quoi de manière très claire? En 70 langues, pour que tout le monde puisse comprendre. Alors vous allez me dire, oui, mais on était contre la traduction en grec de la Torah. Oui, mais le problème, c'est qu'elle a été traduite qu'en grec, au lieu d'être traduite en 70 langues. C'est-à-dire, quand on traduit qu'en grec, ça suppose une supériorité du grec sur l'hébreu, qui dénature la Torah. Mais si vous traduisez en 70 langues, eh bien, la dimension universelle est préservée. Eh bien, ça a été à un moment de l'histoire, justement au moment de l'affrontement militaire et politique entre Israël et les nations, au pays de Canaan, eh bien, c'est à ce moment-là qu'a été entrevue la dimension universelle. Et puis il y a eu différents moments, par exemple la Bible nous fait état d'un personnage très important, Naaman, le général araméen de la Syrie de l'époque, qui, se faisant guérir de la lèpre par le prophète Élisha, dit « Maintenant je sais qu'il n'y a pas de Dieu sur terre, qui en Elohim bechol haaretz ». On est compte de la proclamation de foi d'un gentil d'après la tradition biblique. Ata yadati ki en Elohim bechol haaretz. Je sais qu'il n'y a pas de Dieu sur terre, sur toute la terre. Il rajoute ki im be Israël, si ce n'est en Israël. C'est-à-dire que il y a eu cette conscience que c'est à travers Israël qu'on peut avoir une appréhension juste et véritable, authentique du divin. Et donc il faut pour cela supprimer l'idolâtrie. D'ailleurs, nous avons un texte talmudique qui nous dit Ha kofer ba'avodazara nikra yehudi, celui qui nie l'idolâtrie est appelé juif. Ça veut dire qu'on peut dire qu'à la limite, l'athéisme est désiré par la tradition talmudique. Puisse l'athéisme se répandre parmi les nations pour avoir l'oreille ouverte à un message pur. C'est en fait, c'est exprimé également par Rabbi Yitzhak Abravanel qui dit qu'on ne peut acquérir une foi véritable que quand on a abandonné ses idolâtries. Et donc, il y a eu des moments donc, dans l'histoire où c'est apparu plusieurs fois. Au XIXe siècle, nous avons eu une tentative un peu timide. Celle du rabbin de Livourne, Eliyahu Ben Amozeg, dont nous avons parlé, qui a reçu chez lui un jeune chrétien du nom d'Aimé Palière qui était intéressé par la conversion et que le Rav Ben Amozeg a convaincu de rester Noachide. C'était en fait le premier Noachide de l'époque moderne. Bon, on peut dire que ça s'est soldé par un échec véritable dans sa vie personnelle. Jamais Aimé Pallière n'a réussi à véritablement accomplir son noachisme. Mais en tout cas, depuis que l'État d'Israël a été fondé, tout a changé. Le retour sur la scène politique d'Israël nous réinvite à accomplir notre rôle. Ce n'est pas un rôle secondaire, ce n'est pas un auxiliaire du subsidiaire, c'est l'essence même de l'élection d'Israël. Nous avons un rôle de porter notre message aux nations de la Terre. Et c'est pour différentes raisons. Tout d'abord, en raison du scandale métaphysique que nous représentons du fait de notre existence même, comme l'a très bien souligné le professeur Trigano. Il y a dans l'établissement de l'État d'Israël, et encore plus avec la guerre des six jours, un problème pour la conscience universelle. Ce problème, c'est que l'État d'Israël a réalisé un événement biblique en pleine modernité. Le retour d'Israël au mont du Temple, à la Judée, au territoire d'Éphraïm, de Ménaché, au désert du Sinaï, au territoire du Golan. Tout cela, c'est un retour à un événement biblique. Et cet événement biblique a été réalisé au grand scandale de tout le monde, par des juifs laïcs, en gros. Oui, ce qui est un scandale pour les laïcs qui l'ont fait, et un scandale pour les religieux qui n'y ont pas participé. Donc, vous comprenez, il y a ici tout un problème. Mais pour la conscience universelle, c'est encore plus grave. Parce que si un événement biblique est possible en pleine modernité, ça veut dire que peut-être c'est la Bible qui a raison sur la nature de l'histoire. Mais ça va encore plus loin. Ça voudrait peut-être dire que la manière qu'ont les Juifs de lire cette Bible, c'est la bonne. Horreur. Et donc, à partir de ce moment-là, bon, l'humanité va se positionner, pour ou contre. Mais ce qui est évident, c'est que ce que disent les nations, héritières de ces traditions pour qui le retour de la Bible est un problème, même quand elles n'en sont pas conscientes, mais dans le subconscient collectif, ça existe, c'est si vous avez fait tellement de désordre, comme on dit en bon hébreu, tant de balagan, c'est que vous avez quelque chose à nous dire. Déjà, Martin Buber, dans les années 50, dit que des non-juifs sont venus le voir pour lui dire « Mais enfin, bon, vous êtes venus, vous avez quelque chose à nous dire, qu'est-ce que vous avez à nous dire ?» Et au grand scandale des nations, les juifs disent « Mais nous n'avons rien à vous dire. » Nous n'avons rien à vous dire. Et ça pour des tas de raisons. Il y a des raisons de timidité, des raisons d'ignorance. Il y a également parfois le refus. C'est-à-dire nous nous présentons souvent, nous autres les Israéliens, comme étant une des ambassades du monde occidental. D'ailleurs, nous préservons la démocratie contre les barbares. Nous sommes le seul pays démocratique au Proche-Orient, etc. Et vous savez, nous avons nous aussi nos homosexuels et nous sommes très bien. Nous sommes tout à fait démocratiques. Et on ne se rend pas compte dans ce langage, c'est que les nations n'attendent pas ça de nous. Dites, mais enfin, si vous êtes des Européens, qu'est-ce que vous faites en Asie? Vous êtes des menteurs. Vous n'avez rien à faire là-bas. Rendez ça aux Palestiniens, qui ne sont pas palestiniens du tout d'ailleurs. Et donc, il y a un problème véritable, c'est que nous ne remplissons pas notre rôle. De plus, il y a également une urgence, non pas qui concerne seulement le peuple juif, mais cette urgence concerne l'humanité. On ne peut pas être indifférent à ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Or, le monde vit actuellement, pour ceux qui savent le voir, une guerre mondiale. Il y a un conflit universel. Alors, cette guerre ne se fait pas par des attaques aériennes, des bombardements massifs, tout ce qu'on connaît dans les guerres mondiales. Mais c'est un affrontement entre des blocs. Et cet affrontement entre des blocs, entre des aires entières de civilisation, ça se situe essentiellement entre deux grandes forces qui s'affrontent, qui sont le monde occidental et l'islam. C'est la donnée de fait. Tout le reste, ce sont des cas secondaires, ce sont des dérivés de cela. Par exemple, le conflit qui nous oppose aujourd'hui en Eretz Israël avec les Arabes aurait été réglé depuis longtemps s'il s'agissait d'un problème de tracé de frontière entre le Luxembourg et la Belgique. Mais c'est quelque chose de beaucoup plus grand. C'est un affrontement de civilisation. Et dans cet affrontement de civilisation, il y a une argumentation de type moral entre les deux blocs. Et là, on pourrait dire que c'est quasiment irréductible. Il y a, du point de vue du monde occidental, un héritage qui vient de la philosophie grecque. C'est que l'homme est au centre. On appelle l'anthropocentrisme. Et la conséquence directe de cet anthropocentrisme, ce qu'on appelle la dimension prométhéenne, c'est que le divin est dans la périphérie. C'est-à-dire, Dieu est à l'écart. Il existe parfois, c'est une nécessité philosophique ou une tradition religieuse, mais en tout cas, il ne doit pas gêner l'autonomie de l'homme. Ce genre de discours, qui après deviennent l'idéal démocratique, la liberté des mœurs, la liberté tout court, dont s'enorgueillit tellement l'Occident, est considéré par le monde islamique comme un blasphème. Il faut bien le comprendre. Les Arabes, enfin le monde musulman, refuse fondamentalement cette idée de la centralité de l'homme. C'est Dieu qui est au centre, l'homme est à la périphérie. L'homme doit se soumettre, au sens du mot islam, soumission. Et donc, quand on vous parle de démocratisation du monde arabe, les Arabes disent, mais enfin, vous êtes fous, vous allez contre nos valeurs. Et d'où des malentendus énormes au niveau politique. Mais il faut bien comprendre qu'il y a ici un affrontement de valeurs, c'est un affrontement moral, qui ne peut pas être réglé par la puissance politique, économique, diplomatique et autres. Tout cela n'est pas en vain. Mais c'est pour régler un problème, il faut revenir à sa racine. De même que j'ai pu constater dans le pays étranger dans lequel je suis en visite actuellement, qu'il y a un refus de désigner l'agresseur. C'est intéressant, c'est parce que ça demanderait de faire un travail en profondeur un peu trop grand. Je dis pays étranger parce que ma langue naturelle n'est pas le français. Je demande donc d'excuser mes incorrections éventuelles. Non, c'est vrai. Hein. Ma langue naturelle, c'est l'hébreu. Enfin, bon, je fais ce que je peux. Et... Oui, je m'en tire. D'accord. Bon. Donc, je reviens à ces idées-là. Est-ce que nous autres, les enfants d'Israël, nous n'avons pas une solution à proposer à l'humanité? Or, elle existe, cette solution. Selon la tradition d'Israël, et ça c'est quelque chose qu'il faudrait approfondir, que les juifs eux-mêmes devraient apprendre, c'est que selon la tradition d'Israël, Dieu n'est pas au centre du monde et l'homme non plus. C'est le dialogue, la rencontre dont il est question. C'est vrai que Dieu doit régner, mais il doit régner non pas sur des esclaves, il doit régner sur des hommes libres. Et ces hommes libres doivent assumer pleinement leur dimension humaine et libre, non pas en révolte contre le divin, mais en dialogue avec le divin. C'est la rencontre. Et ça, les juifs le connaissent existentiellement par le couscous du Shabbat. Non, bien sûr, tout à fait. Hein. Pour ceux qui mangent du couscous, évidemment. Je parle de chaque plat, chacun. Je respecte toutes les traditions culinaires. Et donc, il y a... nous avons certainement quelque chose à proposer aux nations. Et ce que nous avons à transmettre se fait précisément au niveau collectif. C'est-à-dire... les prophètes nous disent, dans le prophète Zecharia, qu'a cité le professeur Ishalom, Venil-vous, Goyim Rabim El Hashem Bayom Ahou. De nombreuses nations s'associeront à Dieu en ce jour. Remarquez bien le terme biblique, Goyim, dans la Bible, ne veut pas dire des Goyim, ça veut dire des nations. C'est-à-dire des nations en tant que collectivité s'associeront à Dieu, et le prophète continue en disant, Vehayuli Le'am, ils seront pour moi un peuple. C'est-à-dire, c'est le judaïsme qui déclare qu'il y a des peuples de Dieu. Un jour. Pour l'instant, nous sommes le seul peuple de l'histoire qui a réussi, en tant que peuple, à être le peuple de Dieu. Mais l'espérance, c'est qu'un jour, toutes les nations deviendront le peuple de Dieu, des peuples de Dieu. Venez-vous, Goyim, Rabim, El Hashem, Bayom, Ahou, Ve'ayuli Le'am. Alors vous allez me demander, mais alors, et nous alors, qu'est-ce qu'on va devenir, notre amour propre? Vous n'en faites pas, le prophète continue, il dit, Ve'shachanti betocher, et je résiderai en toi. C'est-à-dire que, Israël est appelé à être une nation de prêtres. Mamlechet Kohanim, c'est-à-dire une nation qui tout entière vit ce que vivent nos Kohanim, nos prêtres. eh bien, nous serons tous des prêtres. Et alors, et les goyim, ben, ils seront tous Israël. Certains seront Lévi, peut-être. Et nos Kohanim, alors, qu'est-ce qu'ils seront? Ben, ils deviendront Kohen Gadol, grand prêtre. Et le grand prêtre, alors, ben, il deviendra Superman, et etc. Et Superman, ben, Spider-Man, et tout. Bon. En tout cas, c'est-à-dire qu'il y a, en vérité, donc, si on parle d'un message, de quelque chose, ça devrait être un message entre les dirigeants politiques des nations. Donc, il faudrait demander au président israélien et au premier ministre israélien de convoquer Obama, Poutine, etc., leur expliquer. Bon, mais enfin, vous comprenez qu'on en est un peu loin. Et comme nous en sommes un peu loin, alors nous nous cantonnons dans un projet beaucoup plus réduit qui n'est pas le projet originel, c'est ce qu'on appelle le noachisme au niveau individuel. Il y a une doctrine des Bene Noach, des fils de Noé, véhiculée par le Talmud, et qui intéresse sur Terre de nombreux hommes et femmes qui veulent savoir, c'est un phénomène qui n'aurait pas été pensable il y a 100 ans, mais qui existe aujourd'hui à une grande échelle, il y a des hommes et des femmes sur Terre qui demandent aux enfants d'Israël de leur expliquer ce qu'ils doivent être. C'est bizarre, mais enfin, la demande vient des nations. Mais le fait est là. Je vais vous raconter peut-être une petite histoire à ce propos. J'ai reçu une fois la visite d'un homme originaire de Bourgogne. La Bourgogne, je ne sais pas si vous connaissez, c'est une région de France qu'on appelle la France profonde. Ce monsieur est venu me voir et il me dit je suis né chrétien, mais je ne le suis plus. J'ai une très grande érudition quant au mystique oriental, mais elle ne m'intéresse pas. Je sais que il y a un Dieu qui a créé le monde et qui a élu Israël, et donc je suis venu vous demander, monsieur le rabbin, que vous me dites qu'est-ce que je dois faire pour sanctifier ma vie, mais je vous demande de ne pas me parler des sept lois noachides parce que je les accomplis déjà. Bon, avec toute cette introduction, je lui dis, ben c'est très simple, vous n'avez qu'à prendre, j'étais maladroit, hein. Je lui dis, vous n'avez qu'à prendre un chariot de supermarché, vous vous promenez entre les étagères du judaïsme et vous prenez ce que vous voulez. Il dit, mais pas du tout. Comme c'est la parole de Dieu, ça, c'est hétéronome, ça doit venir à travers vous. C'est donc à vous de me dire ce que je dois faire. Bon, vous comprenez que ça, quand ça tombe sur les épaules d'un juif, il se dit, mais enfin, qu'est-ce qu'il me veut? Mais enfin, bon, finalement, je l'ai quand même un peu aidé. D'ailleurs, pour tout vous dire, toute sa famille pense qu'il est fou, surtout sa femme qui est juive. Oui. Bon. Ce genre de cas... Oui. Mais, bon, ce genre de choses se retrouve un peu partout. C'est-à-dire, il y a donc aujourd'hui un noachisme qui se développe et nous avons commencé à prendre en charge. Il y a d'ailleurs une option de ce genre qui est menée également par le chassidisme de Lubavitch, Chabad, mais dans une optique tout à fait différente. C'est-à-dire, pour le mouvement Chabad, l'État d'Israël n'est pas signifiant au niveau messianique. Et donc ce n'est pas par messianisme ou par sionisme que sont développés ces commandements dans la communauté des nations, mais uniquement parce qu'il faut enseigner les mitzvot à tout le monde. De même que les juifs doivent mettre les téfilines, les non-juifs doivent accomplir les sept commandements noachides, avec en plus de ça une restriction assez grave, pas plus que sept. Ce qui, d'après notre analyse des textes de la Halakha, est contraire à l'opinion du Rambam. D'après le Rambam, à partir du moment où quelqu'un et Noachid, il peut accomplir toutes les mitzvot qu'il désire, y compris le Shabbat et l'étude de la Torah. Et donc, pour bien comprendre de quoi il s'agit, je voudrais vous ramener un texte du Talmud, dans le traité de Baba Kama, page 38a, la maîtresse Amoud Alef, 38a. Et il y a ben une question, ça a l'air complètement inouï, hein, ce texte. « Amad vaimoded eretz ra vayater goyim »« Dieu s'est levé » Il a mesuré la terre, il a vu, il a abandonné les nations. Yater goyim. Alors, il y a plusieurs interprétations de en quoi est-ce qu'il les a abandonnés, qu'est-ce qu'il a vu, qu'il a fait abandonner. Et le Talmud nous dit, au nom de Rav Yosef, eh ben, c'est parce qu'il a vu que les sept commandements qu'il avait donnés à Noé n'étaient pas accomplis par les nations. Alors, il les en a libérés. Il a libéré les nations de cette obligation. Alors, le Talmud dit, mais enfin, comment est-ce qu'on peut libérer le pécheur parce qu'il a péché? On va quand même pas l'autoriser maintenant à être assassin, violer, être idolâtre, blasphémer. Enfin, c'est pas possible. Alors le Talmud se rétracte et dit non. Il n'a pas autorisé la transgression des sept commandements. Il les a seulement privés de récompense. C'est-à-dire même s'ils accomplissent, ils ne sont pas récompensés. Le Talmud dit, mais enfin, si quelqu'un fait déjà quelque chose de bien, qu'il soit récompensé. Pourquoi lui enlever sa récompense? Alors, nouvelle rétractation du Talmud. Non, ils sont récompensés. Mais ils sont récompensés comme quelqu'un qui fait une bonne action bénévolement et pas comme quelqu'un qui fait une bonne action parce qu'il en a reçu l'ordre. Selon le principe qui est « Gadol ha-metsuvé ve'osé mimi-she'eno metsuvé ve'osé » plus grand est celui qui fait parce qu'il a reçu le devoir, il a reçu le commandement, que celui qui fait sans avoir reçu le commandement. Pourquoi c'est comme ça? Il y a un texte du Maharal qui vous l'explique, dont je vous ferai grâce. Mais ça veut dire qu'en fait, l'humanité continue à respecter l'alliance noachide. Mais elle ne la respecte pas au nom de l'alliance. Elle la respecte pour des raisons de moralité humaine. Il est tout à fait moral de ne pas tuer, de ne pas voler, de ne pas adultérer. C'est tout à fait normal. Mais c'est de la morale. Effectivement, on voit, en fait, la Guémara en fait, ne fait ici que reproduire le schéma proposé par le paulinisme. Le fondateur véritable du christianisme, Paul, a déclaré que la loi était abolie. Pourquoi est-ce qu'il fallait abolir la loi, la Torah? Parce qu'il le dit très clairement, la Torah est une malédiction. Pourquoi c'est une malédiction? Ben parce que, à partir du moment où vous avez un devoir, vous pouvez également le transgresser. Et donc, vous êtes en situation de avéra, de transgression. Et quand on a fait une transgression, on est mal aimé de Dieu. Et comme on ne peut pas ne pas pécher, puisque tous les hommes sont pécheurs, surtout s'il y a un péché originel, et donc, il vaut mieux être libéré de cet engagement et que la relation à Dieu passe par la foi. C'est-à-dire quelque chose de plus facile à acquérir selon le paulinisme. Et comme a dit Paul lui-même, attention, ça ne veut pas dire que vous avez le droit de faire toutes ces choses-là. Tout est permis, dit-il dans ses épîtres, tout est permis, mais tout n'est pas convenable. C'est exactement ce que dit la Guémara. Il faut continuer à accomplir ces actions, mais elles ne mettent pas en relation avec le divin. C'est-à-dire qu'il y a une coupure entre l'homme et la transcendance. Les nations ont perdu ce qu'ils avaient aux origines de l'humanité, la capacité d'entrer en relation directe avec le créateur du monde en accomplissant ses exigences morales. Et donc, le noachisme propose, c'est ça qu'il propose, de restituer la situation du metsuvé ve'osé, de celui qui accomplit non seulement pour s'acquitter de la morale, mais pour s'acquitter de son devoir envers le Créateur. Accomplir une mitzvah, c'est beaucoup plus fort qu'accomplir un devoir moral. Il est évident que le devoir moral est préalable. Le Midrash nous dit, « Derech Eretz Kadma la Torah ». Il faut d'abord s'acquitter de la morale avant de s'occuper de la Torah. Tant qu'on ne sait pas acquitter de la morale, la Torah n'a pas de sens. Il faut d'abord donc la morale. Mais une fois la morale acquise, il faut entrer en relation avec la transcendance, avec l'infini, le Ein Sof. Et ça se fait à travers la mitzvah. Et le problème, c'est que l'humanité est en dehors du coup de la mitzvah. Et donc, ce que dit la halakha, c'est qu'il faut devenir noachide, devenir ben noach. Et selon Maïmonide, ce statut s'acquiert avec quelque chose qui ressemble à la conversion au judaïsme, mais qui n'est pas la conversion au judaïsme. Il s'agit de la déclaration d'acceptation des sept commandements devant un tribunal de trois rabbins. Et effectivement, depuis quelques années, moi et encore d'autres rabbins en Israël et un peu partout dans le monde, nous faisons cette cérémonie. Nous avons souvent un non-juif qui vient et qui nous dit « Voilà, je veux accepter la loi noachide. » Et en l'acceptant, il se présente devant trois rabbins, il signe sa déclaration. Et il est reconnu comme ben noach, ce qui a des conséquences au niveau de l'halakha, par exemple, par rapport au devoir qu'a le juif envers lui. Il y a une différence entre les devoirs d'un juif envers tout homme et envers quelqu'un qui participe de l'alliance d'Abraham. Ce n'est pas du tout la même chose. Et à partir de ce moment-là, devient possible l'accomplissement de nombreuses mitzvot qui deviennent des commandements positifs pour l'adhérent au noachisme. Alors évidemment, ce n'est pas évident tout ça. Actuellement, nous avons dans le monde, nous sommes en contact avec plusieurs... Disons que l'évaluation que je peux me permettre, je ne sais pas si elle est scientifiquement vérifiée, c'est qu'il y a entre 20 et 30 000 individus sur Terre qui se considèrent officiellement comme noachides. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas un intérêt encore plus large. Il y a des franges de beaucoup plus importantes numériquement, d'intérêt et de fascination pour le judaïsme chez les nations, sans passer forcément par la conversion au judaïsme. Le fait est là. Et ces noachides ont besoin d'être aidés. Pour une raison très simple, c'est qu'ils sont tout nouveaux sur le terrain. Être juif, ça on sait depuis des milliers d'années ce que c'est, être chrétien, être musulman, être athée, on sait ce que c'est. Mais être noachide, c'est tout nouveau. Et c'est pour ça que nous avons créé notre organisation, Berit Olam, qui s'occupe des relations, le Centre Noachide Mondial, nous appelons ça, qui est en rapport direct avec de nombreux Noachides de par le monde. Et il demande également une vie intérieure. Cette vie intérieure se traduit entre autres par des prières. Nous venons d'éditer un sidour spécial pour Noachide en français et en anglais. Bientôt, il sera traduit en russe et en espagnol. Et il y a également, il demande des fêtes. Il y a une fête que nous avons innovée, celle du 27 Mar Cheshvan. Pourquoi le 27 Mar Cheshvan? Parce que c'est le jour où a cessé le déluge, où Noé est sorti de l'arche et a reçu les sept commandements Noachide. Cette fête commence à être fêtée un peu partout dans le monde, y compris d'ailleurs à Jérusalem. Et il y a un intérêt de la classe politique même pour cela. Le premier ministre Netanyahou m'avait promis de venir à la fête cette année. Comme il avait une rencontre urgente avec le président américain, il a préféré, pour des raisons que j'ignore, se rendre à New York, à Washington. Et en tout cas, il nous a envoyé une lettre très chaleureuse, encourageant le mouvement. Alors, vous comprenez que toutes ces choses-là nécessitent... ont besoin d'être défendues non pas par un individu, par exemple, Richerki, ça doit être pris en charge par le peuple juif. C'est le peuple juif, avec ses institutions, aussi bien religieuses que politiques, qui a la charge de prendre sur lui ce contact. Et c'est la raison pour laquelle je travaille depuis ces derniers temps à institutionnaliser le statut du noachide, aussi bien auprès des autorités rabbiniques, si décrié d'ailleurs dans ce séminaire, que auprès de la classe politique. Et il faudrait arriver à une situation dans laquelle, quand quelqu'un s'intéresse au judaïsme, on lui propose comme alternative au guiour, qui n'est pas toujours souhaitable, proposer une trajectoire noachide. Ça existe. Ça devrait être proposé par tous les batei dinim du monde. Il y a également un travail qui est fait pour qu'un noachide israélien, il y en a, soit reconnu comme noachide, de même que si vous êtes juif, vous vous mariez à la juive selon la loi israélienne, et si vous êtes musulman, vous vous mariez à la musulmane selon la loi israélienne, il n'y a pas de raison que le noachide n'ait pas sa confession reconnue officiellement par l'État, et que ça soit inscrit dans sa teoudat zehout, dans sa carte d'identité. D'ailleurs, nous avons un cas similaire récemment, par décision. C'est même pas une loi, c'est par décision du ministre de l'Intérieur, on peut s'inscrire aujourd'hui en Israël comme de confession araméenne. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça. Il y a, jusqu'à présent, il y avait des Arabes chrétiens en Galilée qui étaient inscrits comme chrétiens ou comme Arabes. Et ils ont demandé à être reconnus comme araméens. Ils parlent une langue proche de l'araméen, le maronite, et donc ils demandent, et ça a été accordé. Il n'y a pas de raison donc que le noachide ne puisse pas avoir également ce statut. De même, il y a une commission du ministère de la diaspora, dirigée par le ministre de la diaspora, qui est également ministre de l'éducation, Naftali Bennett, qui s'intéresse ces derniers temps à la prise en charge par l'État d'Israël des relations avec des groupements humains dans l'humanité qui ne sont pas juifs, donc, et qui s'identifient avec le judaïsme ou l'État d'Israël. Et j'ai pu comparaître devant cette commission récemment, dont un des membres est quelqu'un que vous connaissez probablement, le professeur Benyamin Shalom, qui est ici présent. Reconnaissance d'ailleurs un peu implicite par le grand rabbinat d'Israël. Vous savez que pour l'année sabbatique, la Shemitah, on vend les terres à un non-juif pour contourner les interdictions de la Shemitah. Et il y a un problème au niveau de la halakha. Vous savez que la halakha interdit de vendre les terres d'Israël à des non-juifs. Mais s'il s'agit de ce qu'on appelle un ger toshav, c'est-à-dire d'un étranger résident en Israël, eh bien, selon les règles de la halakha, c'est permis. Alors, le grand rabbinat me téléphone pour me demander « Est-ce que vous n'avez pas par hasard un ger toshav ? On voudrait lui vendre les terres pour ne pas avoir les critiques des Haredim de Bnei Brak, on a un problème. » Alors, je leur ai dit « Mais enfin, vous savez très bien que le Rambam a dit que le statut du ger toshav n'est pas appliqué de nos jours, tant qu'il n'y a pas le Yovel, le Jubilé. » A dit « Oui, mais ça c'est selon le Rambam, me disent-ils. Mais il y a quand même le Rahavad qui dit que c'est possible, et sur l'interprétation du Kesef Mishneh, etc. » Bon, je ne vous rentrerai pas dans toutes les subtilités rabbiniques. Alors je leur ai procuré donc un noachide israélien qui s'est présenté devant le haut tribunal rabbinique et qui a reçu officiellement le statut de ger toshav. C'est la première fois depuis 2600 ans que ça se fait. 2600 ans sont passés et maintenant il y a donc les terres ont été vendues à un ger toshav en Israël. Donc vous voyez que les choses avancent pas à pas, c'est une question de développement des consciences et des mentalités. Il n'y a, Baruch HaShem, pas d'opposition, ou presque, à cette entreprise, mais elle est souvent mal connue. Par exemple, je pense que les rabbins de France ne sont pas tout à fait au courant de cela, bien que j'ai pu célébrer hier soir un mariage noachide dans une synagogue de France. Oui, la victoire. Oui, oui. Bon, le fait était là. Était présent pour l'acceptation des sept lois noachides par les mariés et la mariée, était présent le rabbin de la victoire, Rav Sebag, et également l'ancien grand rabbin de France, Gilles Bernheim, qui ont signé la déclaration de ces noachides.
Bon,
non. 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 La question était judicieuse. Oui. Bon. Il y a également un projet de Shulchan Aruch qui est en train d'être écrit. Vous savez qu'il y a toute une littérature rabbinique autour des règles noachides. Il me reste encore 2 minutes, ne vous en faites pas. Et elle commence à être développée. Il y a évidemment des controverses, mais il y a un point que je voudrais mettre en évidence à propos de ce qu'on appelle la halakha des noachides. Vous savez que dans la halakha juive, on connaît 2 modalités, le permis et l'interdit. C'est ce qu'on connaît. Soit une chose est permise, soit elle est interdite. Point à la ligne. Par contre, dans le domaine de la halakha noachide, il y a un domaine extrêmement vaste qui n'est ni le permis ni l'interdit, mais le souhaitable. Et le souhaitable, c'est en fait 95% de la halakha noachide. Exemple tout simple. Vous savez que dans la liste des interdits sexuels, par exemple, la loi noachide ne considère que 6 exemples. Il est interdit d'avoir des rapports avec sa mère, bon, ça se comprend, avec la femme de son père, même si c'est pas sa mère, avec la femme de son prochain, avec sa sœur issue de la même mère, avec des animaux, et le rapport homosexuel, c'est tout.
Masculin.
Masculin, oui. Et qu'en est-il de sa fille ? C'est pas dans la liste.
C'est pas dans le Lévitique non plus.
Comment ?
C'est pas dans le Lévitique non plus.
Ne, c'est pas dans le Lévitique non plus, mais c'est dans le livre de Bereshit, Lot et ses filles. C'est dénigré par la Torah elle-même. C'est-à-dire que il est évident que si un noachide me dit « Est-ce que je peux épouser ma fille ?» Ben, je lui dirais « Ben non. » Mais c'est écrit où ?» Ben, c'est écrit dans le souhaitable. C'est-à-dire que ce que présente la législation noachide, elle ne présente qu'une structure volontairement extrêmement minimaliste qui permet d'échapper à la barbarie. C'est la condition minimale pour entrer à l'écoute de la parole de Dieu. Mais c'est certainement pas le maximum. Je voudrais, il me reste encore une minute et quart. En fait, je mens, mais c'est... quand on me demande quel est le rôle d'Israël pour les nations, souvent des goïms me le demandent, je leur dis, écoutez, le monde ressemble à une maison qui a un toit. Le toit vous protège. Il vous protège de la chaleur, il vous protège du soleil, de la pluie, du froid. Le monde a un toit qui nous protège de Dieu. Il y a un écran, l'écran de la nature, l'écran de la conscience. C'est important que cet écran existe. S'il y avait un contact direct entre la création le créateur et la créature, on ne pourrait pas tenir. Donc il faut qu'il y ait un écran. Mais il faut également une cheminée. Il faut qu'il y ait un contact avec la transcendance. Mais la cheminée se bouche parfois. Donc il faut des ramoneurs. Et les ramoneurs, c'est nous. Nous sommes les ramoneurs des cheminées du monde. Et c'est pour ça que parfois nous sommes un peu crasseux. Mais ça fait partie de notre travail. Et à travers cette cheminée, qu'est-ce qui passe ? Eh bien, il passe une parole. C'est pour ça que les prophètes nous ont dit que viendra un temps où les nations viendront à la montagne de l'Éternel pour entendre les enseignements du Dieu de Jacob. Kim mitzion tetzetora, car c'est de Tzion que sort une Torah, ou Dvar Hashem, et la parole de Dieu de Jérusalem. Remarquez que cette fameuse phrase de Tzion sort la Torah est prononcée par des goïms dans les prophètes. C'est-à-dire, c'est en tout cas un projet grandiose qui ne peut éveiller que des oppositions ou des adhésions. Certainement pas l'indifférence. Et c'est ce phénomène que nous sommes en train de commencer à vivre de nos jours. Merci de votre attention.
Merci beaucoup. Si j'essaie une question, est-ce que les lois de Noé, c'est les droits de l'homme plus la transcendance ? Parce que, est-ce que les lois de Noé apportent aujourd'hui quelque chose à l'humanité moderne qui a développé la notion de droits de l'homme ? De chartes de droit international, etc.
Vous savez que ce qu'il y a eu dans les débats à l'Assemblée nationale en France, lors de la Révolution française autour de la Déclaration des droits de l'homme, a été âprement débattu le problème des devoirs de l'homme. C'est-à-dire la notion de droit, telle qu'elle est entendue aujourd'hui, est extrêmement problématique parce que, sur le plan pédagogique, elle éduque l'homme à venir au monde en tant qu'exigeant. C'est, je suis venu pour recevoir, ce que est extrêmement problématique sur le plan moral. Ça ne veut pas dire que l'homme n'a pas des droits. Mais fonder l'éthique humaine sur la notion de droit est effectivement problématique. Et je pense que dès qu'on parle de devoir, ça introduit la notion de réciprocité entre Dieu et l'homme et entre les hommes eux-mêmes. Et ça, c'est la loi noachide qui en parle.
Est-ce que la condition noachide ne contribuera pas à créer une nouvelle religion ? Parce que finalement, l'exemple de la période sous l'Empire romain, les phoboumenoi, les craignants Dieu, et Hachem en hébreu...
Qui remplissaient les synagogues.
Oui, qui étaient sur le pas des synagogues et qui assistaient de loin aux offices.
Si loin, ils avaient un endroit dans la synagogue
pour eux. Oui, ils avaient un endroit, une cour pour eux, effectivement. Mais... est-ce que ça n'a pas été le vivier d'une nouvelle religion à venir, à savoir le christianisme ? Et est-ce que finalement, cette réalité est peut-être la conséquence de ce que la synagogue n'a pas su quoi faire avec cet intérêt, mais qui n'allait pas jusqu'à la conversion, ou que la synagogue ne voulait pas accepter véritablement ?
On sent en vous la terreur qu'ont eu les juifs pendant toutes ces milliers d'années concernant le message universel, mais c'est tout à fait justifié, on peut tout à fait comprendre. Nous avons, à chaque fois que les goïms se sont intéressés à nous, ça s'est mal fini. Et donc on peut se demander si ça en vaut la peine. Mais comme vous savez, nos sages ont dit « la vie n'est pas un pique-nique ». on n'est pas sur terre pour se la couler douce, on est sur terre parce que nous avons une mission. C'est la première fois depuis 2500 ans à peu près que nous sommes en état d'accomplir notre mission sans le danger dont vous parlez. Parce que nous avons justement un centre d'impulsion, un cœur. Ce cœur, c'est Jérusalem. Et c'est à partir de cette Jérusalem indépendante que tout est possible. Et donc si tout est possible, tout doit être réalisé. Il y a eu effectivement des déviations. On peut dire que le fait qu'Israël était en situation politique d'infériorité a favorisé la formation du mythe chrétien et par la suite de la prétention musulmane. Et aujourd'hui, nous sommes à même justement de venir avec cette exigence, non pas du ce qu'on appelle le dialogue interreligieux, qui existe d'ailleurs. Je n'ai rien contre le dialogue interreligieux, mais à mon avis, il est stérile. Parce que dans le dialogue interreligieux, ben, vous aurez à une même table, vous aurez un rabbin, un mufti, un prêtre, qui vous diront que nous condamnons l'emploi de la violence au nom de la religion. Vous avez un buffet végétarien à l'extérieur. Et on va signer une déclaration mutuelle pour l'amour entre les hommes. Le problème, c'est que ce qui va décider s'il y aura violence ou pas dans le monde, ce n'est pas les religions. Ce sont les politiques. Et ça, c'est en dehors du dialogue interreligieux. Donc, le dialogue interreligieux est possible, mais il est stérile. Il ne peut pas vraiment amener à quelque chose. Aujourd'hui, nous sommes en état de venir avec une exigence envers l'humanité, cette exigence du retour fraternel dans la compréhension mutuelle.
Merci. Je voudrais commencer par quelques mises au point, peut-être des détails, mais importantes. Vous avez dit l'émancipation pour les Juifs pour être bien assimilés. Non, ne trahissons pas l'histoire. L'émancipation des Juifs a donné enfin un statut aux Juifs dans les nations. Qu'elle ait conduit à l'assimilation, c'est une autre question, mais de l'assimilation, il y en a toujours eu. Si vous on lit les Shoutim, tout au long de l'histoire des Shoutim, on dit il y a trop de mariages mixtes, il y a trop de ceci, il y a trop même de divorces. Maintenant, je commence à comptabiliser ce qu'ils disent. Alors, ne trahissons pas l'histoire. Nous avons cessé d'être des parias, en tout cas en Europe, quand on a eu l'émancipation, et au moins, nous devrions être un peu reconnaissants. Le deuxième point, c'est concernant, vous avez parlé des rabbins et le Sanhédrin à l'époque de Jésus. Le rabbinisme est postérieur à la mort de Jésus. À l'époque de Jésus, il n'y a pas de rabbin, et le phénomène rabbinique est bien postérieur. D'ailleurs, le titre n'existe pas. Il est vrai que dans les évangiles, Jésus s'appelle Rabbi, mais l'auteur des évangiles qui, lui, connaissait déjà le phénomène rabbinique. Il a donné le titre de Rabbi à Jésus. Mais il n'y avait pas de rabbin à l'époque des Sanhédrin. Gamliel Hazaken n'est pas un rabbin. Et le rabbinisme commence au plus tôt avec Rabban Yohanan ben Zakkai. Donc attention aussi à ces... il n'y avait pas de rabbin dans le Sanhédrin, c'est ce que je veux dire. Voilà. Ensuite, vous avez dit que la traduction grecque était un jour de malheur, je n'ai pas saisi le mot, enfin c'était un mot négatif. Non, il y a deux phrases dans le Talmud concernant la traduction grecque. Une qui dit que c'était un jour, comme si c'était le Maaser HaEgel, effectivement un jour de malheur, et l'autre que c'était un grand jour de joie. Or, le judaïsme, juste pour un rappel, le Talmud, juste pour un petit rappel, s'étend sur au moins 6 siècles. Donc les deux phrases ont été écrites à des distances différentes. La première traduction, celle que nous appelons des Septante, était un jour de joie parce que les Juifs l'utilisaient, la communauté d'Alexandrie l'utilisait. On a des termes grecs de cette époque dans la littérature juive. En revanche, effectivement, plus tard, vers le deuxième siècle, on a fait une deuxième traduction grecque qu'on appelle la traduction d'Aquila, et justement pour contrer l'usage de la première par Paul et ses disciples. Donc, on ne peut pas dire comme ça, d'emblée, que c'était un jour de malheur. Ça dépend de quelle époque et de quelle traduction. Et ensuite, je voudrais passer... Là, c'est pour mes remarques. Maintenant, concernant ce qui se fait dans dans votre travail de Noachide. On s'est parlé un petit peu à la pause. Et Shmuel a oublié de citer mon article dans Pardes sur les Noachides.
C'est pas de ma faute.
Comment ?
C'est pas de ma faute.
Non, c'est de la faute de Shmuel. C'est une remarque amicale. je suis un petit peu perplexe. Est-ce que vous êtes pour la lecture de la Torah par les femmes dans la synagogue ? Je vous pose la question.
Bah, j'ai pas encore répondu aux trois premières.
Non, mais déjà, répondez à la dernière. Elle est plus
importante. Je réponds à tous à la fois.
Ça dépend de la femme, peut-être, ou du rabbin.
Quelle est votre question ?
Je suis effarée par ces inventions qui partent d'un bon sentiment. On empêche les femmes de lire dans la Torah alors que c'est une baraita meforeshet. Il y a aucune interdiction qu'elles le fassent. On empêche les femmes de faire mille et une choses. On ne s'occupe pas du guet. On ne s'occupe pas du guillour. Et on dit aux guérim, allez vous faire noachid. Mais je cauchemarde.
J'ai pas compris.
C'est un cauchemar. Dire aux guérim, j'espère que j'ai bien entendu. Si je le cite mal, pardonnez-moi. Dire aux guérim, allez vous faire noachid. Mais c'est quoi ce judaïsme? Je suis désolée, il y a des hilchot gerut pour faire des guérim. Et j'aurais aimé entendre un peu davantage sur le travail de Binyamin, sur le guillour en Israël. Alors maintenant, vous inventez un jour de fête, vous inventez des rites, vous inventez des ça. Il faut accueillir les noachides, sans aucun doute. Il y a des lois noachides pour cela, sans aucun doute. Mais vous êtes en train de faire une nouvelle religion. C'est franchement, je ne pense pas que ce soit très honnête à leur égard. C'est un peu les duper. Et je ne sais pas dans quelle mesure c'est bon pour le judaïsme. Et même un niveau sidour. Alors là, je n'en reviens pas. Un sidour, pourquoi faire? Ils ont une mitzvah de faire la tefila. Ils ont une mitzvah de faire la tefila betzibour. Mais c'est quoi ça? Une dernière chose, et c'était la dernière chose que vous avez dit, que vous étiez hostile à l'égard des dialogues interreligieux. Bon, c'est votre opinion, mais ne nous dites pas que ça sert à rien. Les seuls amis que les juifs ont aujourd'hui sont ceux qui viennent dans le dialogue religieux, interreligieux, les rares. Alors, est-ce qu'ils font des choses ou pas? Qu'est-ce que vous en savez? Est-ce que moi je sais que ce que vous faites va donner un résultat positif? On agit parce qu'on y croit. Et on espère que notre action donnera des résultats positifs. Sinon, on est des monstres si on agit pour faire le mal. Donc, le dialogue interreligieux a ses limites, sans aucun doute. Tout le monde n'est pas pour. C'est clair. Néanmoins, n'insultez pas les bonnes intentions des chrétiens et des musulmans.
Ah. Bon. Je vais essayer d'être bref.
Vous permettez que je rapporte à Guggenheim que vous avez célébré un mariage à la victoire.
Bon. Je vais essayer d'être bref. J'admets tout à fait qu'on critique mes opinions. Je n'admets pas du tout qu'on critique des opinions qui ne sont pas les miennes. C'est-à-dire qu'on ne m'attribue pas des opinions qui ne sont pas les miennes. Et après qu'on les ait attribuées, alors on m'attaque. Alors je vous dis, pour ce qui est de l'émancipation, je n'ai pas dit que l'émancipation a été faite pour s'assimiler. Je ne l'ai pas dit. Donc toute la critique que vous faites de cette opinion que j'aurais eue n'a pas de sens, étant donné que je ne l'ai pas dit. Deuxièmement, pour ce qui est des rabbins du temps de Jésus, c'est vrai que vous avez le droit de ne pas être d'accord avec les chrétiens qui considèrent que Jésus était un rabbi. Mais enfin, il faudrait quand même demander aux chrétiens ce qu'ils en pensent. Mais ça n'a aucune importance. Le titre. Non, je parle ici des évangiles. Les évangiles disent que Jésus est un rabbi. Mais en tout cas, vous pouvez ne pas être d'accord avec les évangiles, faire de la critique biblique, je suis tout à fait d'accord. Mais il faut savoir que les chrétiens ne seraient pas contents de vous entendre. De plus, peu importe, je considère tout à fait que la tradition rabbinique est en filiation directe avec les pharisiens. Et les pharisiens étaient la majorité au Sanhédrin du temps de Jésus, d'ailleurs on leur a assez reproché. Et je pense donc que le titre de rabbi attribué à Moshe, bien avant qu'il y ait un Sanhédrin, Moshe Rabbeinu, a quand même son sens. Je pense. Oui, bien sûr. Grâce à vous d'ailleurs, c'est probablement une femme qui lui a donné, puisque c'est sa femme qui a fait la circoncision. Pour ce qui est de la traduction des Septante, vous m'attribuez le texte comme si j'optais uniquement pour le texte talmudique qui parle de la traduction des Septante comme étant un malheur et comme si j'avais oublié qu'il y avait un texte qui fait le pendant. Pas du tout. Je n'ai pas du tout oublié qu'il y a deux textes. J'ai simplement expliqué que même selon l'opinion qui dénigre la Septante, eh bien, ça s'arrange tout à fait avec le fait que la Torah a été traduite en 70 langues. Donc, il ne faut pas m'attribuer des opinions que je n'ai pas. Pour ce qui est de la proposition aux guérim de devenir Bene Noir, il ne s'agit absolument pas de proposer à des guérim, le guer est déjà un juif. Il s'agit de personnes qui s'intéressent au judaïsme et qui souvent sont dans l'angoisse parce que pour eux, la conversion n'est pas souhaitable. Je connais des cas où ça devient un drame familial absolument terrible, la conversion. Ça amène au divorce, ça amène à un rejet de la société, à des crises psychologiques très graves. Et donc, il n'est certainement pas souhaitable de prosélytiser pour le monde entier. C'est une chose qui est évidente, que l'histoire nous a appris à ne pas faire, justement. Ce que les goyim attendent de nous, c'est non pas de les convertir au judaïsme, mais c'est de les convertir au goyisme. Et ça, il y a un projet de la Torah qui les concerne. Pour ce qui est du Sidour, le Sidour que vous n'avez probablement pas encore consulté, puisqu'il a été publié que vendredi dernier, ce Sidour... dit de manière expresse et sans la moindre ambiguïté qu'il est entièrement facultatif au niveau du contenu des prières. Le fait que les Noahides aient besoin de prier est un besoin humain et universel, d'ailleurs codifié par une partie des Géonim, comme quoi la prière serait un des devoirs des Noahides, au même titre que la Tzedaka, qui ne fait pas partie des sept lois et qui pourtant fait partie des devoirs Noahides selon la Gemara. Pour ce qui est de créer une nouvelle religion, certainement pas. C'est-à-dire que il y a quand on appelle créer une nouvelle religion, ce dont parle Rambam, en manichim otam la soddat, etc. Il s'agit là-bas justement de quelque chose qui se fait à l'extérieur du judaïsme. Là, il s'agit simplement d'un épanchement, si vous voulez, à la manière d'une tache d'huile de l'enseignement de la Torah qui, pour l'instant, n'est valable que pour les juifs et qui devient intéressant pour l'ensemble de l'humanité. Pourquoi priver l'humanité de cette parole ? Quand je parle du dialogue interreligieux, je pense avoir été assez clair que je n'ai rien contre le dialogue interreligieux, je suis simplement sceptique, et ça c'est quand même mon droit le plus strict, de sceptique par rapport à ces résultats. J'ai moi-même rencontré des chefs religieux de différentes obédiences, de différentes religions, et nous avons eu des dialogues très intéressants. Je n'ai aucune hostilité par rapport aux tenants d'autres religions. Je tiens simplement à préciser une chose importante, c'est que le mythe chrétien s'est fondé à partir d'une nécessité qu'a ressentie l'humanité de s'imprégner de la lumière d'Israël. Or, comme cette lumière n'était pas portée par un peuple indépendant, il a fallu pour cela créer un masque. Et ce masque est devenu la personne mystique de Jésus. Et continuer à, disons, par pitié, à ne pas dire la vérité aux goyim à ce propos, ce n'est pas leur faire du bien. Quand quelqu'un est porteur d'une maladie, eh bien, il faut lui dire qu'il est malade. Quand l'humanité continue à être fascinée par la personne de Jésus alors qu'elle pourrait profiter de manière totalement pure de la lumière d'Israël, ce n'est pas lui faire du bien. Et je pense que c'est un devoir, effectivement, de le raconter aux nations.
Je voudrais d'ailleurs dire que lors d'un colloque, parce que nous avons organisé plusieurs fois des colloques autour des lois de Noé, j'ai entendu la critique d'un intellectuel chrétien me disant que les lois de Noé, en fait, étaient vides de spiritualité et qu'elles ne pouvaient rien donner comme dimension spirituelle aux gens qui se reconnaîtraient dans ces lois. Alors, ça aussi, c'est une critique réelle qui se trouve. Mais
dans la question qui a été posée, on m'a demandé justement, c'est de ne pas donner de contenu spirituel.
Là, il y a une véritable question plus large qui se pose, qui est de savoir justement si effectivement le peuple d'Israël a une vocation, je ne dirais pas une mission de ce type-là, comment est-il possible de la remplir, entre guillemets, alors que la base de cette fonction devient une société étatique ? Car c'est bien plus complexe que lorsqu'on est simplement une synagogue, à la façon de la synagogue libérale qui s'était donnée comme vocation de proclamer l'unité divine dans tout, sur toute la planète, et qui récusait pour ce fait la condition de peuple des Juifs. Ça, c'était fondamental au départ. Ensuite, ça a changé, mais si vous voulez, au départ, c'était fondamental que les Juifs libéraux ont ressenti la nécessité de sacrifier leurs conditions collectives pour pouvoir s'adresser à l'universel. Bon. La question, en fait, que j'ai voulu soulever dans ce colloque, et c'est pourquoi, c'est justement comment la chose se présente alors qu'il y a un État et une nation citoyenne. Ce qui est bien plus complexe, parce qu'enfin, on ne demande pas aux gens qui se sentent proches de devenir israéliens. Donc là, on ne leur demande pas de devenir juif. Et la question, c'est, mais comment, de quelle nourriture vont-ils se nourrir dans ce rapport à Israël? Alors, la question, évidemment, elle est complexe, elle est ouverte, mais néanmoins, c'est une tentative de répondre aux défis de l'histoire, car... Dans ce qui est intéressant d'observer aujourd'hui, on avait fait un colloque sur les 10 tribus perdues d'Israël il y a quelques années. Ben, c'est que de grands pans de l'humanité ont le sentiment d'être juifs. Ce qui est étonnant, stupéfiant. Sont-ce les 10 tribus perdues qui ressurgissent à la surface de la terre alors qu'Israël lui-même est en pleine renaissance? C'est une question spirituelle très sérieuse. Quel est cet intérêt? Alors on vous dit en Israël, oui, ils sont attirés par la société de consommation israélienne, etc. Je dois dire que sans doute, par rapport à des pays d'Afrique ou d'Asie qui sont misérables, la société israélienne est riche et attractive. Mais en but à une hostilité mondiale, être attiré par Israël dans ces conditions, c'est quelque chose de plus. La question, c'est comment Israël répond-il à cette attente? Oui, c'est ça la véritable question. Il n'y a pas beaucoup d'entreprises ni de réponses, mais même pas du tout. Vous en étiez une, et c'est pourquoi il m'a semblé intéressant de conclure le colloque justement sur cet aspect-là, justement parce que il y a aujourd'hui très peu de recherches. C'est vrai que le dialogue interreligieux qui a son importance, mais qui est souvent un dialogue politique, de rapport politique, met entre parenthèses, d'une certaine façon, l'ambition d'Israël dans cette communication, son envergure, etc. C'est quelque chose d'autre que cette dimension-là. Je connais aussi un institut israélien qui s'occupe de la formation d'un leadership pour Israël et qui a une autre ambition qui est de faire partager la réalisation de l'Israël contemporain, c'est-à-dire en quelque sorte de s'appuyer sur Israël, start-up nation, etc., etc., pour communiquer avec des régions éloignées. La Corée du Sud, par exemple, est entichée du Talmud. Au Japon, c'est étrange, si vous voulez. Et donc, il y a d'autres tentatives, me semble-t-il, enfin une seule que je connaisse. Les autres sont plutôt dans l'interreligieux, ce qui n'est pas du tout la même chose. Parce que l'interreligieux, finalement, restreint la chose à la sphère religieuse, alors que l'autre prend en charge la dimension collective. Et donc là, c'est un carrefour. Je ne sais pas si ce développement connaîtra un avenir, si d'autres initiatives paraîtront, mais en quelque sorte, c'est aussi le front de la question du sionisme et du judaïsme, parce que c'est plutôt la dimension du judaïsme, là, ici, qui influerait sur la dimension du sionisme, dans la mesure où le judaïsme ne se satisferait pas que la finalité du sionisme soit la constitution d'un État, point. Et c'est tout. Donc la finalité du judaïsme en tant que tel, ce n'est pas d'aboutir uniquement à l'État. Certainement pas, c'est bien plus vaste que cela. Et donc la question se pose véritablement.
Je pense que je ne suis pas comme le monsieur de la Bourgogne, je ne suis pas un faux. Au moins, je pense que je suis un homme normal. Donc j'aimerais bien réagir par rapport à deux questions que le professeur Trigano a posé. D'abord, pour moi, le noachisme représente les droits de l'homme et la transcendance et le messianisme. Pourquoi ? Parce que, comme le prophète Isaïe dit dans son livre, en fait, ce sont les goïms qui disent « Kimitzion tetzé Torah udvar Hashem mirushalayim ». Donc, en fait, il y a cette dimension messianique qui est en jeu, quoi, quand il s'agit de noachisme. Et en fait, alors, c'est quel messianisme, quelle dimension messianique ? Alors, il s'agit, pour moi, du partenariat entre la nation sacerdotale et les autres nations, 70 nations. Donc, dans ce partenariat, il y a, donc, dans l'optique du messianisme, en fait, le noachisme joue un rôle très important. Et donc, puisque le thème est le judaïsme et le sionisme, alors je me réfère au sionisme. Alors, dans cette optique noachide, quel est le rôle du sionisme ? En fait, l'État d'Israël, pour les Bnei Noirs, comme confrères, en fait, l'État d'Israël est le garant de la rédemption. Puisque cet État d'Israël est renaît après 2000 ans, en fait, c'est le début de la rédemption. Et en fait, pour nous, disons, nous avons dans ce partenariat entre la nation sacerdotale et les autres nations, le but commun, c'est la rédemption. Et le garant de cette rédemption est l'État d'Israël. Et quand il s'agit de la nouvelle religion, on a posé des questions. Alors, il ne s'agit pas de la nouvelle religion. Si on réfléchit cette vision optique, cette optique messianique qui relève de la rédemption, on ne peut pas concevoir une autre religion que le judaïsme. Donc voilà, c'est ma réaction par rapport à vos questions.
Parce qu'il attend toujours la rédemption et qu'elle n'est pas encore arrivée?
En fait, c'est toute l'humanité qui attend, en quelque sorte, même dans l'optique du judaïsme.
Oui, mettez le micro, s'il vous plaît.
Ouais. Toute l'humanité attend cette rédemption. Et j'espère que les juifs et les noachides, Nous travaillons en vue de cette faire venir en quelque sorte cette rédemption sur la terre.
S'il vous plaît.
Je voulais juste poser une question au rabbin Cherki. Je comprends pas très bien, puisque vous êtes un rabbin orthodoxe, pourquoi célébrer un mariage noachide, donc c'est pas un couple juif, à la victoire. Pourquoi célébrer dans une synagogue un mariage noachide?
Un mariage, du point de vue de la halakha, ne se célèbre pas dans une synagogue. Il se célèbre n'importe où. Ça peut très bien se faire dans une cour arrière de maison. Ça peut se faire dans votre salon. Donc, un mariage n'a rien à voir avec la synagogue. Le fait que les Noachides ont besoin d'une cérémonie de mariage est un fait. C'est-à-dire que, au lieu de se suffire de l'union qui est commune aux animaux, c'est-à-dire si vous avez un couple animal, ben il n'a pas besoin de mariage, nous sommes des hommes. Et en tant qu'humains, les humains ont besoin d'une institution. Une institution qui insiste sur le caractère sacré de leur union, sur le caractère d'alliance. Et ça a besoin effectivement d'un cérémonial qui peut tout à fait être inspiré de celui du judaïsme, comme dit Maïmonide lui-même, à partir du moment où on devient ben noir, on peut adopter toutes les coutumes du judaïsme dans la mesure où on en a le désir.
S'il vous plaît, là ici, quelqu'un peut transmettre?
Oui, c'est très heureux de savoir qu'il y a ce retour un petit peu vers les valeurs du judaïsme de certaines populations. Et Shmuel, vous êtes bien placé pour savoir qu'en Afrique, il y a un mouvement qui se dessine, qui est très important. Vous avez participé au film qui n'en finit pas d'essayer de sortir sur la chaîne Histoire. Et je suis frappée par le fait qu'une soirée organisée importante à laquelle Shmuel avait participé avec un représentant de l'UNESCO, etc., qui était très importante, il y avait tous les politiques de la région, et j'ai voulu inviter l'ambassade à cette soirée où l'on parlait des conversions des Africains qui n'étaient pas encore juifs. Mmh. Et là, l'ambassade m'a dit immédiatement, « Oh là, attendez, nous demandons d'abord au Misra d'Arkoutz en Israël. Mmh. » Ils ont téléphoné au ministère des Affaires étrangères, et là, on leur a dit, « Surtout pas aucune mention d'Israël à cette soirée, aucune présence d'Israéliens à cette soirée, voilà. Parce que nous les aidons économiquement, mais participer à ces soirées où l'on parle de conversion d'Africains et autres, ce serait soutenir et ce serait donner la caution qu'Israël y participe. Quant aux amitiés judéo-chrétiennes, là encore, Shmuel, vous êtes bien placé puisque nous sommes quand même très complices, je pense que l'erreur des groupes d'amitié judéo-chrétienne sont de participer à une association nationale et à droite, à gauche, on fait une conférence sur ceci, sur cela. Je suis présidente d'un groupe qui est le même depuis 30 ans. Et ce groupe est dans la même région géographique, une petite région de banlieue en quelque sorte. Nous avons tout abordé année par année. Nous avons passé une année entière sur le sionisme a-t-il rempli ses espérances. Quand nous avons abordé une année sur Saint-Paul, je ne sais comment remercier encore le sieur Shmuel Trigano qui est là, puisque devant 200 personnes et je ne sais combien de prêtres, il a affronté un théologien chrétien. Ça a été pied à pied, ça a été point par point, ça a été absolument extraordinaire. Et trois ans après, les chrétiens de la région parlent encore de l'argumentaire de Shmuel Trigano à cette réunion qui les a fait réfléchir et leur a apporté beaucoup. Donc je crois qu'il faut vraiment se diriger, être ouvert à tout, comme vous le faites effectivement. L'essentiel, c'est de savoir comment l'on est juif soi-même. Dernière question, que faites-vous pour les enfants de pères juifs ? Nous en avons de plus en plus. Et avec le mouvement d'Alia en tant que responsable de communauté, je vous dis que ça devient dramatique. Les mouvements d'Alia que nous avons dans les communautés, ce sont des familles qui partent en Israël avec une peur au ventre. Mon fils pourra-t-il être intégré ? Mes enfants pourront-ils faire leur bar mitzvah ? Mes enfants pourront-ils se marier ? Je m'excuse pour ces trois questions.
Non, c'est très bon. La question est très bonne. Vous devez interroger le professeur Rei Shalom, dont c'est le travail. C'est lui qui s'occupe de ces problèmes. Oui, et donc il est plus attitré que moi pour traiter de la question. Pour ce qui est du dialogue interreligieux, je pense que c'est effectivement important que les gens se comprennent. Mais ce dont je parlais, c'est simplement d'une situation dans laquelle les rencontres amènent simplement au respect. Le respect, bon, c'est normal, c'est humain, ça ne va pas tellement plus loin, c'est tout. À propos de ce qu'a dit le professeur Trigano, à propos de ce sentiment qu'ont de nombreux goïms d'être juifs, il y a, vous connaissez certainement le thème de la substitution, le dogme de la substitution dans le christianisme. Il faut faire attention de ne pas substituer une nouvelle substitution à la substitution. Oui, oui.
Merci. Je voudrais simplement apporter un complément d'information en ce qui concerne les différentes mouvances chrétienne et particulièrement protestante aux États-Unis, qui effectivement soutiennent le sionisme dans l'État où il se trouve, en grande partie, mais avec des arrière-pensées qui sont loin d'être négligeables. La plupart de ces mouvements protestants, peut-être des millions, soutiennent le sionisme avec l'arrière-pensée de convertir les juifs. Ils le disent ouvertement, ils l'écrivent sur leur site internet, vous pouvez le lire, et ils seraient ravis, à mon avis, d'être considérés comme Gertoshav et de venir s'installer en Israël pour, comme ça se passe actuellement avec les Mormons et beaucoup d'autres, disons, mouvances chrétiennes, pour convertir un maximum de juifs. Avez-vous pensé à cette éventualité qui se précise de jour en jour ? Non seulement les convertir, mais les plus extrémistes d'entre eux disent, si ils ne se convertissent pas, eh bien, on les massacre.
No, I wanted to say, as somebody who's been very close to many Christian evangelical groups that are very much pro-Zionist, the overwhelming number of them have explicitly stated that their purpose is not to convert Jews to Christianity. I mean, they hope that anybody might, because we become a Christian, but they have explicitly, their leaders have explicitly said that this is not part of their agenda. Their agenda is as follows. They are believers in the Bible. The Bible says that the land of Israel is given by God for the Jews to settle. Guess what? God has fulfilled his promise. The Jews are returning to the land of Israel. It is because of their biblicism. It is because of their centrality of the Tanakh, not because of their evangelizing agenda. This is something that is very, very important for Jews to understand.
Il est très, très important que les Juifs comprennent que les chrétiens ne viennent pas pour convertir les Juifs. Ils le déclarent très clairement et ils disent que la terre d'Israël a été donnée par Dieu à Israël et que donc il a accompli sa promesse. Maintenant, certains sont soutiennent Israël d'une manière extraordinaire, bien qu'ils soient évangélistes. Par exemple, au Canada, M. Trudeau est un évangéliste et il est un de ceux qui apporte le plus grand soutien à Israël, et c'est certainement à cause de sa foi. Et il est contre, il s'oppose à tous ceux qui essayent de convertir les Juifs. Évidemment, il agit au Canada, où il y a une majorité de Juifs libéraux, plutôt réformés qu'orthodoxes, et la majorité des Juifs au Canada vote pour le Parti conservateur. Bon, la vaste majorité des évangélistes déclarent clairement qu'ils ne sont pas missionnaires. Et lorsqu'ils sont en contact avec des Juifs, ils ne cherchent pas à les convertir. Et cela doit être clair.
Peut-être que chacun de nous peut répondre. Et la question que j'avais pensé pouvoir conclure cette séance est de savoir si finalement la motivation de nos questionnements et du questionnement du judaïsme était une motivation qui découlait d'une attente messianique. Est-ce que cette attente messianique était réelle, sérieuse? En somme, je remettais en question toute la journée par ce questionnement, parce qu'en fait, notre attente vis-à-vis d'Israël est une attente qu'on pourrait définir comme étant messianique, une attente de réalisation. Mais est-ce que cette attente est véritablement...
Le micro marche, hein, je suis désolée, vous entendez
Que je voudrais poser, peut-être chacun de nous pourrait dire un mot de conclusion, une sorte de retour sur ce que nous avons vu depuis le départ. Et je donnerai la parole au Rabbin Cherki.
Bon, merci de la question. Un des termes les plus, disons, les moins compris de nos jours, c'est le terme de messianisme. Quand on parle d'attente messianique, il faut savoir de quoi on parle. Le messianisme, du point de vue du peuple d'Israël, c'est la libération de l'exil. Le messianisme n'est pas une fin. Le messianisme est un départ. C'est tant que nous ne sommes pas arrivés à la libération d'Israël, nous sommes encore dans la préhistoire, un temps où domine la violence. Et puis, à partir du moment où Israël est libéré, c'est là que peut commencer tout un processus qui passe, entre autres, par la paix universelle, par la construction du temple, par le retour des prophètes, et enfin, tout ce qui s'ensuit. On ne peut pas vouloir le bien de l'humanité et ne pas vouloir être et ne pas être messianiste dans cette optique-là. Merci.
La question est comment définit-on le messianisme? Chacun des concepts que nous utilisons peut être exposé ou expliqué ou commenté de manière différente. Si pour nous, être messianique, c'est aspirer à améliorer le monde, la société planétaire, pour que nous puissions vivre dans un univers où il fait bon vivre, qui soit plus moral, plus humain, qui aspire à des résultats spirituels plus élevés, à remplir le potentiel humain aussi sur le plan spirituel pour pouvoir atteindre des sommets dans le sublime de l'existence humaine. Se demander si l'histoire ou si le saint béni soit-il nous a donné cette occasion extraordinaire grâce à la création d'un État autonome, souverain, juif, qui aujourd'hui nous offre les moyens de concrétiser cette vision, des moyens que nous n'avons jamais possédés au cours des deux millénaires passés. Alors oui, on peut dire que la création de l'État d'Israël peut s'aborder en termes messianiques. C'est vrai que les rabbins l'ont fait, mais on peut dire que la plupart des penseurs sionistes l'ont fait aussi. Herzl parlait en termes messianiques de la renaissance d'un État juif, Ben Gurion aussi, mais évidemment, quand il disait messianisme, il ne pensait pas à quelque chose ancré dans la spiritualité, mais plutôt dans la réelle politique. Néanmoins, il visait à améliorer à la fois l'humanité et le quotidien du peuple juif. Et dans ce cas-là, oui, le sionisme est un mouvement messianique.
Il y a une Agada qui dit que si tu es en train de planter un arbre et on te dit « le Messie est arrivé et il est à la porte de la ville », termine ton travail, plante ton arbre et seulement après, va l'accueillir. Donc j'attendrai, en ce qui me concerne, pour accueillir le Messie. J'espère qu'il viendra pour nous tous, pour Israël et pour l'humanité. Je le dis avec très sérieusement. Mais j'ai envie de planter mon arbre. Et notre arbre, c'est un judaïsme plus éclairé, plus humain, plus juste, avec des institutions qui fonctionnent correctement, avec des solutions réelles pour des problèmes humains graves, comme ceux que j'ai cités, les conversions, les mariages mixtes, les enfants en Israël, les conversions dans la Gola, le guet pour les femmes, le statut des femmes, la participation des femmes dans la liturgie juive, les femmes sont complètement exclues, et toutes les questions de société qui se posent à la société juive. J'aimerais que ces arbres-là soient plantés d'abord, et j'ai bon espoir que les catégories de rabbins que j'ai critiqués, Dieu merci, ils ne sont pas tous comme ça, il y a d'excellents rabbins, se saisiront et commenceront à faire un travail qui est en empathie et avec une empathie avec le public qui attend tant d'eux et qui a besoin de leur solution, surtout dans l'État d'Israël. Parce que dans l'État d'Israël, il n'y a pas d'échappatoire. Dans la Gola, il y a d'autres solutions qui ne sont pas meilleures, qui ne sont pas bonnes pour le judaïsme. Et un dernier mot, il y va de l'avenir du judaïsme. L'avenir, si nous continuons sur la voie actuelle, je suis malheureusement très pessimiste pour l'avenir du judaïsme orthodoxe. Il doit choisir des nouvelles voies, réfléchir à de nouvelles pistes d'action et les mettre en application. Notre Torah est très belle, nous avons beaucoup de solutions dans la halakha juive, on n'a pas besoin de nouvelles solutions comme on l'a proposé ce matin, et combien même on aurait besoin, il n'y a aucun problème de les créer, on a fait ça pendant 2000 ans. Donc j'espère que notre judaïsme orthodoxe saura bien se saisir.
When we speak of Mashiachiyut or messianism,
Quand on parle de messianisme, eh bien, je dirais que je ne suis pas d'accord, par exemple, avec certaines des opinions de Yeshayahu Leibovitch de Mémoire Bénie. Et j'ai aussi des controverses, une controverse politique avec lui. Mais il avait tout de même raison lorsqu'il critiquait ceux qui édifie un programme politique sur le messianisme. Et je dois reconnaître que dans la synagogue où je me rends chaque semaine, je répète avec tous les fidèles, avec la plus grande kavana, la plus grande ferveur, la prière pour l'État d'Israël. Mais je saute la phrase « État d'Israël » début de la naissance de notre rédemption. Cela, c'est à Dieu de décider si c'est vraiment ce moment-là. Je pense que ce que nous devons faire dans l'État d'Israël, c'est rester fidèles à l'Alliance, au Brit. Et puisque nous pouvons aujourd'hui accomplir le commandement de peupler la terre d'Israël, faisons-le. Et ceux qui disent que l'État d'Israël doit être une lumière pour les nations devraient retourner au texte original qui ne dit pas lumière pour les nations, mais être comme une lumière qui se tourne vers les peuples. Mais nous, nous sommes chargés de respecter les mitzvot.
Me revient, je ne dirais qu'une chose, c'est que la résurgence d'un État d'Israël reste encore une énigme, un message, un défi, et que cette résurgence a du sens. À nous de le trouver, de le construire et d'en comprendre la finalité. Je crois que cette journée a permis de reconnaître toutes les questions qui se posent justement dans cette convergence du judaïsme et du sionisme, des questions qui, en règle générale, sont tenues pour acquises ou ne sont jamais posées. Je vous rappelle que nous nous sommes réunis dans un lieu qui est un lieu de la gauche du MAPAM, le cercle Bernard Lazare où nous nous retrouvons est un cercle qui ne ferait pas avec la religiosité ni le judaïsme, et je crois que c'est le signe même que cette question est une question bien plus vaste que une question adressée à la société croyante dans le judaïsme, que c'est une question qui concerne l'ensemble du peuple juif. Je vous remercie d'avoir été là et je vous rappelle que vous retrouverez l'ensemble des séances sur l'université en ligne que nous avons avec Academ et les textes publiés dans la revue Pardes d'ici 2-3 mois. Merci beaucoup et à la prochaine.